La pause philo.
La pause philo.
Un temps pour l'essentiel.
Bonjour à tous, nous continuons notre série sur les philosophes et leurs mères. En quoi la relation de la mère a-t-elle pu influencer la pensée de grands philosophes? Pour en parler, nous sommes avec Jean-Louis Siani. Bonjour.
Bonjour.
Merci de nous être fidèles, Jean-Louis. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'auteur de La mère et le philosophe aux éditions Le Bord de l'eau, ce qui va nous permettre aujourd'hui de parler d'un philosophe important, mais très peu connu, Gaston Bachelard. Alors avant de se pencher sur la relation que ce philosophe entretenait avec sa mère, pouvez-vous nous éclairer, Jean-Louis Siani, sur ce personnage? Qui était-il?
Alors le contexte, d'abord, peut-être un mot, c'est un philosophe de la première moitié du XXe siècle, il meurt en 1964.
Donc un philosophe contemporain.
Oui, mais c'est un philosophe qui a d'abord été facteur, hein, c'est ça, ça la particularité. Il a participé à la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918, il a perdu sa jeune épouse juste après la guerre, et on le retrouve à la fin, malgré tous ces obstacles, malgré toutes ces vicissitudes, professeur à la Sorbonne.
Quel beau parcours!
Voilà, alors c'est quand on regarde les images sur Internet, on voit qu'il a un air de prophète ou de clochard, il a une grande barbe. Il y a un par-dessus, puis c'est un philosophe jeune qui joue au football, qui boit le petit vin blanc, vous voyez, c'est un...
Qui profite de la vie.
Et puis un philosophe aussi qui vient de la France profonde du début du siècle dernier. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de Bachelard? D'abord, c'est un philosophe de la résilience.
Alors la résilience, hein, rappelons aux auditeurs que c'est la capacité pour un individu à faire face à une situation difficile.
Oui, par rapport notamment aux aléas de son existence que je viens de mentionner. Et puis, bon, voilà, et puis c'est quelqu'un qui utilise ses ressources intérieures. Alors il a deux spécialités, la philosophie des sciences, ce qu'on appelle d'un mot un peu savant l'épistémologie, et puis l'imagination. Il a écrit donc des ouvrages sur la formation de l'esprit scientifique, comment en fait la connaissance, la raison se développe contre les données des sens. Et puis il a aussi dégagé les lois d'un nouveau rationalisme au XXe siècle après les grands bouleversements de la science. Mais c'est sur peut-être sa philosophie de l'imagination qu'on s'arrêtera aujourd'hui, notamment en conseillant la lecture d'un petit livre délicieux qui s'appelle « La psychanalyse du feu » ou encore d'aller vers « La flamme d'une chandelle » ou « Le droit de rêver ». Car pour Bachelard, penser, c'est d'abord imaginer. Et imaginer, c'est faire la part belle à l'enfant qui demeure au fond de nous. L'enfant qui se construit dans ses représentations et dans ses rêveries. Et alors, c'est très important. Parce que Bachelard, aujourd'hui, les enfants, aujourd'hui, avec le téléphone portable, Internet, Facebook, ils sont quasiment interdits de rêve.
C'est juste. Alors, quel est justement... là, vous venez nous présenter le personnage. Qu'est-ce qu'on peut dire sur sa mère?
Alors, tout simplement, sa mère, elle était buraliste à Bar-sur-Aube, donc c'est près de Troyes, dans l'est de la France. On sait peu de choses de cette Marie-Louise Philomène Sanré. Pas de portrait, pas de référence, voilà, Madame Bachelard, elle passe en fait comme une ombre fugace qu'on aurait aperçue à la lueur d'une chandelle. C'est une femme sans visage, une pure présence. On pourrait dire que c'est la mère, la génitrice, la mère de l'origine sociale, la mère nourricière aussi, celle des dons premiers. Et on peut voir comment il parle de son enfance, Bachelard, pour le mettre en résonance peut-être avec sa mère. Il dit « Je suis né dans un pays de ruisseaux et de rivières ». Dans un coin de Champagne, vallonné, dans le vallage, ainsi nommé à cause de ses vallons, je ne puis m'asseoir près d'un ruisseau sans tomber dans une rêverie profonde et sans rêver à mon bonheur. Bon, vous voyez, c'est le philosophe de la simplicité, le philosophe des racines, du terroir, du plein air. Alors, qu'est-ce qui se passe? En 1984, c'est quand il naît, c'est une petite ville, hein, un bourg qui fait 5000 habitants, Bar-sur-Aube. Et donc, c'est un de ces innombrables centres commerçants qui constellent la France et le tissu rural de la France à l'époque, hein, avec les clochers, les traditions, les légendes. C'est la France des paysans et des artisans. La famille Bachelard fait dans la chaussure. Hein, le père est un artisan, un maître cordonnier. Et la mère tient le bureau de tabac au 119 de la rue Nationale, où elle fait, qui fait aussi office de dépôt de journaux. Donc voilà le cadre familial.
Alors justement, là, vous venez de nous le décrire, ce cadre familial. Selon vous, cette mère génitrice, nourricière, comme vous l'avez nommée, influe-t-elle quand même sur le contenu de sa philosophie, de la philosophie de Gaston Bachelard ?
Il fait une sorte de psychanalyse, mais qui est différente de celle de Freud. Hein. La différence avec celle de Freud, c'est que c'est une psychanalyse philosophique, on dira. Hein. Il décroche les souvenirs et les représentations de leur contenu sexuel, ce que, au contraire, Freud les rapproche, lui. Donc, c'est une philosophie qui s'attache à la matérialité des images et des symboles, parce qu'ils expriment avant tout une dynamique psychique. Nous avons un besoin d'imaginer, nous dit Bachelard, nous avons une sensibilité première, native, qui utilise l'énergie du passé, mais à la différence de Freud, peut-être pour la projeter vers l'avenir. Et donc, loin de marquer une inhibition, l'imagination, c'est la racine de notre action, de notre force agissante. Donc, vous le voyez, là, on peut dire que la psychanalyse de Bachelard, elle extirpe le sujet de son histoire familiale et elle va au contraire s'appliquer à des objets élémentaires comme l'air, le feu, la terre,
donc
l'eau.
Donc ça, ce sont les symboles, en fait, auxquels il fait référence.
Oui, et puis c'est l'univers imaginaire auquel il va se référer. Mais il va utiliser des concepts freudiens, mais finalement pour les détourner de leur orientation première. Hein. Pour Bachelard, l'ambivalence que Freud accordait aux sentiments, eh bien, Bachelard va la placer, cette ambivalence, au cœur même des éléments.
Donc, Gaston Bachelard accorde de l'importance aux éléments, vous l'avez dit, le feu, l'air, l'eau. Alors, si on prend l'exemple du feu, pouvez-vous justement nous en dire un peu plus, nous expliquer
tout à
concrètement
fait, parce que le feu, bien entendu, le feu, c'est un signifiant clé pour Bachelard. Hein, c'est à la lumière, à la chaleur du feu que le philosophe convoque ses parents. Hein, il écrit « Je ne relis pas cette page sans me souvenir du bon et solennel médecin à la montre en or qui venait à mon chevet d'enfant et tranquillisait d'un mot savant ma mère inquiète. C'était un matin d'hiver dans notre pauvre maison, le feu brillait dans l'âtre. » Donc vous voyez, il y a...
Cette référence au feu.
Voilà, et pendant ce temps, dit-il, quand j'étais malade, mon père faisait du feu dans ma chambre et il voyait son père tisonner. Hein. Donc vous voyez, il n'y a pas un triangle édipien, le père, la mère et l'enfant, comme chez Freud, là, il y a le feu, donc il y a un carré, il y a quatre éléments. Donc vous voyez, une mère anxieuse, un père expert du tison, et c'est dans ces images simples, nobles et douces, mais pas névrotiques, que Bachelard dessine ce qu'il appelle le complexe de Prométhée.
Alors c'est quoi ce complexe de Prométhée ? On connaît le complexe d'Œdipe, mais voilà, pas le complexe de Prométhée. Dites-nous en plus.
Le complexe d'Œdipe, bon, c'est une relation que Freud décèle comme structurant notre inconscient, et surtout nos relations d'enfant avec un père et une mère. Mais Prométhée, c'est différent. Prométhée, c'est le héros qui vole le secret du feu et qui le transmet aux hommes. Hein, vous voyez, donc c'est un avec ce feu, bien entendu, les hommes ils vont créer la technique, les outils, les armes.
C'est hein. En quelque sorte, on peut dire, une philosophie très positive.
Tout à fait. Prométhée remplace Œdipe, qui est un héros tragique, hein, malheureux, un héros incestueux, meurtrier. Donc ce héros du docteur Freud, lui, il ne le transforme pas, il en choisit un autre.
Bachelard est plus optimiste, alors.
Oui. Oui, il est optimiste. Bon, vous le savez, Elodie, maintenant, toutes les philosophies aident à vivre, mais celle-ci sans doute un peu plus, parce qu'on dirait que rien dans le passé ne retient Bachelard. L'enfance, c'est un réservoir, c'est un puits d'être, hein, comme il le dit lui-même. Hein. Et donc, je crois que c'est peut-être dans cette enfance qu'il a dû chercher l'énergie nécessaire pour surmonter toutes les épreuves de la vie dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, Bachelard recherche un état de neuve enfance, et nous devons le réveiller. Je pense que nous pouvons tous aller vers cet état de neuve enfance et affronter l'énergie nécessaire pour affronter le réel, vivre à bras le corps, sans se plaindre, sans rechigner à l'effort.
Hein. Donc ça, c'est sa définition du mot vivre, en fait.
Tout à fait. Et il y a même donc un autre, on parlait de Prométhée et d'Œdipe, mais il y a un autre mythe que sans doute les auditeurs connaissent bien, qui est le mythe de Sisyphe d'Albert Camus. Et Bachelard en parle dans La Terre et les rêveries de la volonté, et il inverse la,
Alors le mythe de Sisyphe, rappelons que c'est le rocher que Sisyphe remonte à chaque fois en haut de la montagne et qui descend.
Il est condamné dans la journée à monter ce rocher qui dans la nuit va redescendre. Et donc c'est
et chaque jour il recommence.
Le symbole de l'absurdité de la vie pour Camus, de l'effort inutile d'une condition humaine qui n'a pas de sens. Et bien Bachelard, il inverse, il dit un rocher qui reçoit un si prodigieux effort de l'homme est déjà homme lui-même. Hein. Donc, dans l'effort, pour Bachelard, l'homme, il humanise la terre. Hein. Il se muscle dans son activité, dans son effort, et c'est là qu'il reçoit, sa condition reçoit un sens. Alors, peut-être une phrase délicieuse, il dit « Le supplice de Sisyphe est une partie de football un peu longue, et tout sport vu par un pessimiste pourrait être désigné comme une figure de l'absurde. » Alors voilà, on sait que Bachelard et Camus aimaient tous deux le foot.
Pas avec la même vision.
Voilà,
De vision. Alors voilà. Une phrase pour conclure rapidement.
Moi, je garderai cette belle phrase où Bachelard nous dit « Comprendre la vie, c'est plus que la vivre, c'est la propulser. Hein. » La philosophie aussi, Élodie, c'est propulser. Si on sait la recevoir et l'utiliser, c'est un propulseur existentiel.
Alors on va terminer bien sûr ces belles notes très positives, Jean-Louis Siani, qui donne envie de continuer.
Propulsons-nous.
De continuer à travers la philo pour nous propulser. Donc merci beaucoup Jean-Louis Siani pour votre analyse. Je rappelle que vous avez écrit La mer et le philosophe aux éditions Le Bord de l'eau. Merci à tous de votre fidélité sur Radio Aviva.
La pause philo.
La pause philo.
Un temps pour l'essentiel.